franceinter.fr.
Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour Patrick.
On commence donc par une loi de travail qui provoque la colère des syndicats. Vous découvrez la presse du mois de mars, Hélène ?
Non, il s'agit d'une autre loi travail, Patrick. Charline Van Honecker, vous en parlez d'ailleurs juste avant 8h, pour s'amuser de cette manif belge, où la police a compté plus de manifestants que les syndicats. 60 000 personnes, donc, qui ont défilé hier à Bruxelles pour scander non à la semaine des 45 heures, non à la flexibilité. C'est à la une de la Libre Belgique ce matin. Et c'est vrai qu'on a un peu le sentiment de tomber dans une faille spatio-temporelle, puisque, comme chez nous, les syndicats réclament aujourd'hui au gouvernement un retour à une véritable concertation sociale sur le projet de loi Peters, l'alter ego de Myriam El Khomri en Belgique. Comme chez nous, le Premier ministre Charles Michel, à l'issue de la manifestation, a affirmé qu'il entendait maintenir le cap. Et enfin, comme chez nous, de façon moindre, il y a eu quelques débordements hier en fin de manif. Le Soir met en ligne la vidéo d'un commissaire de police mis KO hier par un manifestant qui l'a frappé à la tête.
Alors, on revient en France et à la contestation sociale qui continue de s'étendre.
Avec deux questions principales ce matin dans la presse. Le blocage, à qui la faute ? Et maintenant, on fait quoi ? Alors, à qui la faute ? Si vos journaux reprennent l'argumentaire du couple exécutif, François Hollande a parlé sur France Culture hier d'une stratégie portée par une minorité. Si une partie des éditorialistes de la presse régionale continue de fustiger le forcing de la CGT, comme l'écrit Bruno Dive dans Sud-Ouest, la CGT qui pénalise d'abord ceux qui ont un travail, renchérit Michael Tassard dans le Courrier Picard. Un sondage Odoxa, publié dans le Parisien, montre que les Français sont plus partagés sur la question. 61% d'entre eux affirment que si les mouvements sociaux devaient perdurer, notamment jusqu'à gêner l'organisation de l'euro, eh bien ce serait dû à l'inconséquence du gouvernement qui a pris de gros risques en voulant passer en force avec le 49-3. Seuls 37% en font porter la responsabilité aux syndicats radicaux. Et ce sont bien les sympathisants de gauche qui sont les plus sévères avec le gouvernement. Les bloqueurs, ce sont eux, affichent d'ailleurs en une le Havre libre, avec une photo de Hollande et de Valls. Oui, isolé, le pouvoir se déchaîne contre les syndicalistes, dénonce l'Humanité. L'Humanité, qui consacre un article à fustiger la novlangue des médias de masse, écrit Audrey Louswarne, gardien de l'ordre social, qui se focalise, dit-elle, sur la CGT et sa supposée radicalisation. Oubliez, dit-elle, le déni démocratique du 49-3. Les sondages qui donnent une majorité de Français contre la loi travail ou la pétition en ligne et son 1,3 million de signataires, les vraies raisons de la colère des travailleurs sont zappées, accuse-t-elle.
Mais au fait, Hélène, la position de Manuel Valls sur la CGT et les blocages a-t-elle changé depuis 2010, comme le disait il y a quelques instants Philippe Martinez de la CGT à Léa Salamé?
Eh bien, le plus simple, c'est encore d'écouter le Premier ministre d'aujourd'hui, l'opposant d'hier. C'est le Huffington Post qui a exhumé la vidéo.
Un responsable politique ne peut pas accepter, évidemment, ces blocages. Donc ça n'est pas bien si on veut répondre de manière nette, précise et sans langue de bois. Et encore une fois, l'absence de dialogue social, l'absence d'écoute de la part du pouvoir sont tout à fait dommageables et conduisent à ce type de situation que je ne peux que regretter.
Donc non au blocage et priorité au dialogue social, disait Manuel Valls. Mais au fait, que disait-il de l'attitude des syndicats qui contestaient la réforme des retraites à l'époque, dont la CGT, donc écoutez.
Malgré une attitude, disons-le, et tout le monde le reconnaît, extrêmement responsable de la part des syndicats.
Non au blocage, mais CGT extrêmement responsable. Un point partout.
Voilà. Alors, deuxième question, Hélène, maintenant, on fait quoi ?
Un retrait de la loi est-il envisageable ? Eh bien non, retirer la loi serait inacceptable, prévient dans le Parisien Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Il continue de regretter que le gouvernement ait péché par manque de concertation, puis par manque de pédagogie, en laissant ainsi la voie libre, dit-il, à toutes les intoxications et radicalismes. Mais il met en garde aujourd'hui le gouvernement si l'on préfère miser sur l'extrême gauche en lui accordant une place surdimensionnée. À un moment où le FN prospère, ce sera la porte ouverte à l'hystérisation, la fragmentation et la dislocation de notre société. Ça le mérite d'être clair. Un petit peu moins clair, la stratégie de François Hollande. Le Parisien révèle que l'interview hier d'Emmanuel Macron aux Échos, interview dans laquelle il jouait la provoque en suggérant d'aller encore plus loin que la loi travail, s'est faite avec l'aval du président en personne, quitte à radicaliser un petit peu plus les protestataires. Alors Nathalie Schuch évoque un scénario machiavélique où Hollande retirerait sa loi et du coup remplacerait Valls par Macron, se débarrassant du coup sans couper rire des deux, ce qui dégagerait à terme le terrain pour sa candidature. Personnellement, au-delà du coup à trois bandes, je ne comprends plus rien au billard.
Ah bon, il y en a un qui est candidat sans faire campagne et l'autre qui fait campagne sans être candidat, non ?
Donc quitte à radicaliser tout le monde, à mettre tout le monde dans la rue, bon, on
va voir
la suite.
Alors on poursuit, on termine Hélène avec un homme heureux, un ministre brocardé et un casting inattendu.
Septembre 2014, photo de une, la gauche officielle doit finir son agonie. Août 2015, photo de une, Hollande ne se représentera pas. Décembre 2015, nous sommes dos au mur. Une aujourd'hui des Un Rock, le même magazine donc, et le même Jean-Luc Mélenchon. 2017, c'est la bonne, s'exclame-t-il. Très longue interview pleine d'espoir pour sa candidature, puisqu'en 2012, il avait commencé sa campagne à 3% d'intention de vote pour finir à 12. Cette fois, il part de 12, c'est donc la bonne, affirme-t-il. Effectivement, si le multiplicateur est le même, ça le met à 48% au second tour, on est d'accord. Au premier tour,
ça,
Cédric Villani.
Je vous donne la moyenne.
Merci, j'ai pas 18, mais j'ai la moyenne. Le ministre brocardé, c'est Bernard Cazeneuve, entretient l'équipe où le ministre de l'Intérieur réaffirme que tout est fait pour la sécurité de l'euro, notamment dans les fan zone, même si 100% de précaution, ce n'est pas le risque zéro, prévient-il. Mais le brocardage vient du Canard Enchaîné qui lui consacre un portrait sous le titre « Chapeau, virgule, melon sans bottes de cuir ». Anne-Sophie Mercier s'appliquant à lui dégonfler le melon à coups de citations de l'intéressé qui montrent qu'il a le melon. Et on termine par des rumeurs de casting, citées ce matin par le site de Marie-Claire. Et si James était Jane, oui, Jane Bond à la place de James Bond. La récente défection de Daniel Craig, qui refuse de rempiler dans le costume de 007, a donné des idées aux internautes pour le remplacer. Ils ont choisi Gillian Anderson, plus connue chez nous sous le pseudo d'agent Scully dans la série X-Files. Elle s'y voit déjà en James Bond 007. Et du coup, le site Slate.fr s'amuse ce matin à faire le casting des James Bond Boys à la plastique, évidemment, aussi parfaite que celle à laquelle nous avaient habitués les James Bond Girls.
Voilà, c'est des rumeurs pour l'instant.
C'est des rumeurs. Merci. Pas sûr que ce soit une femme, James Bond.
Non, merci Hélène Jouan pour la revue de presse sur Inter. Bonjour Nicole Ferroni.
Oh, bonjour Monsieur Cohen. Mais écoutez, voilà, je suis très contente ce matin qu'on parle un petit peu de mathématiques, parce que moi je me sens en adéquation avec les équations, en fusion totale avec les intégrales. Alors je me dis, allons-y, servez-moi une bonne grosse tranche de chiffres, qu'on se la déchiffre.
Mais vous avez préféré les SVT, vous ?
Oui, mais ne lui dites pas, il le savait pas.
Voilà. Si, écoute.
Bon, d'accord.
On connaît, allez. Nicole.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.